Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. On est le mercredi 25 janvier. Oui, c'est bien ça, hein, tout va bien. Il est 8h30, il passe la semaine avec nous, ou presque. Il est notre stagiaire de 3e. Salut Jacob.
Salut Dan.
Ça va, tout se passe bien?
Bah, tout se passe bien, à part qu'il fait très très froid.
Ouais, n'hésite pas à parler dans le micro, c'est de la radio. Hein,
oui, oui, oui.
Alors, en tout cas, tu nous viens de Saint-Jean-du-Gard, tu fais la route tous les matins, bravo.
Ouais, ouais, ouais.
C'est dur le matin.
Ouais, ouais, il fait froid, comme je l'ai dit, et c'est long.
Bienvenue en tout cas, super semaine. Au programme de cette matinale, nous sommes en studio et en direct avec Laure, bonjour.
Salut Ben.
Conceptrice avec Rim et Étienne de l'application Octave Medit. On aura ton frère par téléphone dans quelques instants, si tout va bien. Évidemment, il est à Bruxelles. On va au-delà de parler de la pluie de l'application succinctement, surtout abolir quelques clichés sur la méditation et sur ce truc génial qui nous vient des Babyloniens, les bonnes résolutions. Et aussi parler de ce que vous organisez le 11 février prochain à la ronceraie de Saint-Laurent-de-Trèves chez Nausicaa, qu'on salue évidemment. Et en deuxième partie d'émission, une petite rediffusion du reportage sur le musée imaginaire des enfants de Lozère, un musée dont les œuvres sont choisies par les enfants, pensées, réfléchies, ressenties, expliquées par leurs soins. Bref, un truc absolument génial. C'était Cléo qui avait fait ce reportage et on réécoute ça tout à l'heure. À la programmation musicale, c'est toi Jacob qui t'y est collé. Et c'est parti, évidemment, vous êtes bien sur Radio Bartas et on commence par l'édito. Ouais.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Alors ce matin, je voulais vous parler des influx lanceurs, hein, les influx voleurs. Ils l'ont déjà fait sur une autre grande radio que tu affectionnes particulièrement, Laure, n'est-ce pas ?
Radio Bartas.
Évidemment. Alors du coup, j'ai changé de sujet et on commence par une bonne nouvelle. C'est un camouflet cinglant pour l'exécutif. Alors que Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avait annoncé en décembre vouloir prolonger la dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes dans la culture de betteraves. Ce faisant, le porte-voix des lobbies du secteur et de l'industrie sucrière, la justice européenne vient de lui donner tort. Ces insecticides tueurs d'abeilles ne peuvent bénéficier d'une dérogation s'ils ont fait l'objet d'une interdiction préalable, et ce, même si les cultures sont menacées d'une épidémie. Un État membre de l'Union européenne, je cite, ne peut autoriser l'utilisation de ces produits dès lors que la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d'exécution, écrit la Cour de justice européenne dans son arrêté publié le jeudi 19 janvier dernier. Or, ces substances chimiques sont formellement interdites depuis 2018 par le droit communautaire. L'arrêt de jeudi vient confirmer que nulle urgence, nul danger ne peut permettre de suspendre momentanément cette interdiction. L'État français, qui déroge à l'interdiction de ces produits depuis qu'une loi votée en octobre 2020 permet de continuer à planter des semences de betteraves enrobées de ces insecticides, est donc sommé de revenir sur cette exception accordée sous la pression des betteraviers et de développer des méthodes de culture moins destructrices pour les écosystèmes. C'est juste du bon sens. Tant pis pour les lobbyistes et vive les abeilles. Vous savez ce qu'on dit. Si les abeilles disparaissent, plus de planète Terre en moins de 50 ans. Alors, on pourra bien se passer d'un peu de sucre dans le café. On écoute Orelsan, le morceau s'appelle Baise le monde, c'est super le matin. C'est Jacob qui est à la prog et c'est parti.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31, juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain, tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins. C'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi.
Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment.
Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis ton voisin qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour, plante une graine. Qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres. Ça donne un kilo de coton qu'il expédie en Chine. Où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil. Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et tram. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école. Qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions. Pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après. Mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain y'a un mec dans la soirée calme. Ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanana.
Oh, ça c'est de la coupure. Aurel San, Baise le monde. De retour en plateau avec Laure. Et si tout va bien, nous sommes par téléphone avec Étienne. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Tu nous entends bien?
Oui, très bien. Oh, et vous?
C'est très très bien, oui, alors que tu es dans le plat pays, là-haut, du côté de Bruxelles. Il fait beau?
Écoute, le soleil se lève tout doucement, mais oui, ça a l'air d'être assez dégagé, là, aujourd'hui.
En tout cas, tu es co-créateur de l'application Octave Médite, et tu seras avec Laure à la Ronceret de Saint-Laurent-de-Trèves le 11 février prochain pour une séance de méditation. On va en parler, entre autres. Laure, toi, tu fais la musique. Toi, Étienne, tu es accompagnant en méditation. C'est ta voix qu'on entend sur les sons de l'appli. Et saluons, bien sûr, Rim, qui est chargé de com pour vous, co-créatrice aussi. D'abord, Étienne, c'est quoi être accompagnant en méditation?
En fait, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis accompagnant en méditation, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes ou des groupes qui souhaitent aller dans cette pratique, découvrir ce que c'est, savoir en quoi ça consiste et comment bien pratiquer. Voilà, donc jusqu'à avant le Covid et au début du Covid, j'animais des ateliers de plus ou moins une fois par mois, voilà, en présentiel. On était une dizaine de personnes. Et donc voilà, donc du coup à chaque fois on avait par exemple un thème de la méditation et qu'on voyait ensemble. Donc il y avait une partie théorie, puis après une partie pratique et enfin une partie échange questions-réponses, parce que c'est aussi extrêmement important. Chacun a ses questions et il est important que cette pratique, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que cette pratique, en fait, elle colle à la vie de chacun. Voilà, ce n'est pas une pratique qui est figée, mais que on peut qui peut être adapté en fait à chaque personne. Voilà. Et donc du coup, moi en tant qu'accompagnant, j'accompagne les personnes sur ce chemin. En tout cas, au début de ce chemin, parce que voilà, moi aussi je suis sur ce chemin. Et voilà, en quelques mots.
Comment tu es venu, toi, à la méditation?
Alors, j'ai eu le déclic en 2010, quand je suis venu vivre en Belgique. Alors déjà, depuis les années 2000, hein, j'avais beaucoup à ce moment-là des questions ou des réflexions sur le sens de la vie, sur la justesse intérieure, sur qui suis-je, sur le monde. Et c'était des questions dont je sentais que les réponses étaient en moi. Voilà, donc du coup, voilà, beaucoup d'introspection déjà. Et petit à petit, j'ai découvert que la méditation permettait de répondre à ces questions, mais aussi de trouver voilà, une paix intérieure et une façon de vivre adéquate ou en tout cas sereine avec qui j'étais, qui je suis et le monde et qui m'entoure. Et donc, en 2009-2010, je suis parti un an en Asie, au Cambodge, qui a été une année très révélatrice pour moi. Et je suis arrivé en Belgique. J'ai déposé mes valises dans le plat pays en 2010 et puis là je me suis dit bon allez je me lance dans cette pratique, je pratique tous les jours, à fond de balle, c'est parti. Je crois que j'ai tenu 2 ou 3 semaines et après j'ai arrêté parce que franchement ça m'ennuyait et j'avais toujours autre chose à faire. Et j'ai vraiment mis 1 an et demi, 2 ans à faire en sorte ou à comprendre que cette pratique était essentielle pour moi. Voilà, donc pendant un an et demi, 2 ans, je me suis essayé, je suis allé voir des personnes, je médite en groupe, j'ai beaucoup lu et tout ça, voilà, donc j'ai une pratique, je dirais, sporadique, voilà, ou en dents de scie. Et au bout de 2 ans, j'ai vécu une expérience, en fait, intérieure, et qui était comme un déclic, un interrupteur qui a été allumé, que je n'ai même pas allumé moi, mais qui a été allumé, où j'ai senti, en fait, que cette pratique était extrêmement importante pour moi. Et depuis, en fait, je pratique quotidiennement. Ça va faire maintenant une bonne dizaine d'années que cette pratique m'accompagne, quoi. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je ne médite pas pendant par exemple plus de 3 jours, je ne me sens pas bien. Voilà, je suis englué dans mes émotions, donc, du coup, j'ai besoin de redescendre.
Est-ce qu'on sait d'où vient le fait que l'humanité peut méditer et s'est mis à la méditation?
Est-ce qu'on sait d'où vient le fait que l'humanité peut méditer et d'où vient la méditation?
C'est ça.
C'est ça. Est-ce qu'on le sait? Non. Enfin, oui et non. On a forcément les écrits, mais qui sont vieux de 2500 ans et des en sanskrit, en langue pali essentiellement. Ça c'est la langue bouddhiste vieille de l'époque où en fait la méditation à la base était réservée aux personnes, aux moines et aux nonnes. Voilà. Jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique essentiellement réservée aux moines et aux nonnes qui vouaient leur vie en fait à cette pratique pour atteindre l'illumination. Voilà. Donc c'était assez fermé comme pratique. Mais voilà, donc il n'y avait pas eu encore vraiment de réflexion sur est-ce que l'humanité entière peut méditer. Et en fait, il a vraiment fallu attendre le XXe siècle et l'explosion en tout cas de la science et des études scientifiques, de la quête de sens aussi, pour que la méditation s'ouvre au plus grand nombre, voilà, enfin n'importe qui, au final au monde entier. Et cette pratique qui était, je dirais, très renfermée ou très étroite d'accès, en fait, c'est ouverte. Et les moines et nonnes qui pratiquaient à l'époque, en fait, ont eu aussi une sorte de... Enfin, une prise de conscience, ou en tout cas, se sont réunis pour se demander comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la méditation soit accessible au plus grand nombre. La méditation, via le bouddhisme, c'est l'un des seuls courants qui a été vraiment pensé pour que ce soit accessible au plus grand nombre, voilà, sans qu'il y ait une notion de religion derrière. Et en fait, les pratiques, donc ce qui est intéressant dans le fait que ce soit accessible au plus grand nombre, nous, enfin monsieur, madame, tout le monde, n'est pas voué à méditer 10 heures par jour pour espérer en tout cas atteindre l'illumination au cours de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on travaille, parce qu'on a une famille, on vit, voilà, donc on n'a pas le temps de ça. Donc la réflexion, c'est vraiment fait de comment une personne qui, voilà, de la vie de tous les jours, qui travaille, et ainsi de suite, peut pratiquer 10-15 minutes par jour et peut avoir des bienfaits. Et en fait, il y a eu une généralisation de cette pratique, beaucoup depuis les années 80-90 par des scientifiques tout d'abord américains, sur la laïcisation de la la méditation, donc respirer 10 minutes par jour, voilà, la cohérence cardiaque, ainsi de suite. Voilà, donc la laïcisation de la méditation, chose qui a plu énormément, ça s'est envolé comme je sais pas si on dit ça, mais comme traînée de poudre en fait, surtout dans mon Occident. Et voilà, donc aujourd'hui c'est une pratique qui est maintenant sur beaucoup, en tout cas de bouches, si pas toutes les bouches, mais en tout cas sur beaucoup de bouches, quoi. Voilà.
Et donc tu viens d'abolir le premier cliché que j'avais noté, il ne faut pas forcément être d'obédience bouddhiste ou avoir des dons surhumains pour méditer. Ça, tu viens bien nous expliquer et de détruire ce cliché. Allons-y pour le deuxième. Méditer, c'est faire le vide dans sa tête pour ne plus penser à rien.
Ah oui, mais c'est un beau cliché que j'aime bien celui-là parce que bah forcément ce n'est pas ça, mais il est beau. C'est vrai que quand on commence la pratique de méditation, on se dit tiens, il faut que je sois comme l'image célèbre du moine bouddhiste assis en tailleur au pied de son arbre avec les magnifiques racines, ainsi de suite, et ne surtout pense à rien. Et là, je serais bien. Oui, mais non, en fait. Le principe, c'est tout d'abord, on veut dire qu'est-ce que ça veut dire méditer, parce que c'est quand même important. Méditer, c'est un entraînement de l'esprit à développer sa concentration en l'instant présent. Voilà. C'est être ici, dans l'ici et maintenant. Donc c'est entraîner son esprit à développer sa concentration en l'instant présent. Quand on est perdu dans ses émotions, pensées, émotions, bien généralement, dans 99% des cas, en Belgique on dit même 99% des cas, on est dans notre futur ou dans notre passé. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, je repense à tel moment qui génère en moi la tristesse, la peur ou autre, ou je pense au futur, à ce qu'il faudrait que je fasse pour me sentir en sécurité, que je vais faire ça pour avoir une meilleure place dans mon boulot, pour gagner plus d'argent, pour avoir une meilleure maison, enfin bref, voilà. Donc, on est dans tout sauf dans le seul moment qui nous appartient, dans le seul moment qu'on vit vraiment, qui est l'ici maintenant, l'instant présent. Ça, c'est la définition, je dirais, générale de la méditation. Entraîner son esprit à développer sa concentration en l'instant présent. L'idée, ce n'est pas de faire partir toutes ces émotions et toutes ces pensées, parce qu'on est humain, parce qu'on est dans un monde de dualité, parce que le chaud, le froid, la nuit, le jour, les émotions agréables, les émotions désagréables. Et si on cherche à tuer une part de ces émotions désagréables, par exemple, donc les faire partir, donc si on les fait partir, ben, du coup, il y a mort. Parce qu'on ne les voit plus, parce qu'elles sont plus là. Donc chercher à les tuer, ben, c'est comme chercher à tuer une part de soi. C'est comme du coup se dire, ben, tiens, je vais couper mon bras gauche et après je serai bien et en paix. C'est un non-sens. J'ai pas envie, moi, de me couper un bras gauche personnellement. J'ai pas envie de faire partir mes émotions désagréables. Surtout que les émotions désagréables à vivre, ben, en fait, elles sont là pour nous aider à vivre. En fait, elles sont là pour notre bien. Parfois, leurs cadeaux sont très mal emballés, on est d'accord, mais elles sont là et pour notre bien. Donc en fait, le principe, ce n'est pas de chercher à ne plus ressentir tout ça, à faire le vide, c'est de s'autoriser à vivre, à vivre tout ce qu'on ressent, toutes les émotions, et surtout d'être en paix avec ça. Plus on pratique, plus on devient en paix avec la colère, la dépression, la folie, la peur d'être vieux ou de mourir, la jalousie, et ainsi de suite. Le stress, et plus on est en paix avec toutes ces émotions-là, plus moins ces émotions ont de prise sur nous, et du coup, moins elles sont présentes.
Ouais, en tout cas, tu abolis encore un autre cliché, c'est-à-dire que méditer, c'est pas du tout une action, une activité passive.
Non, c'est vraiment. Alors, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Ça, c'est important aussi parce que il n'y a pas une façon de faire. Il y a soit une personne qui dit, tiens, moi, je commence 10 minutes par jour, et voilà, et ça me suffit, ok, c'est parfait, voilà. Et c'est vrai qu'on peut aller de plus en plus loin dans la pratique en soi. On peut développer une attention le plus possible de l'instant présent. C'est-à-dire pratiquer en étant ainsi 10 minutes par jour, je ferme les yeux, je respire et je me concentre juste sur ma respiration. Voilà, ce qui vient en moi vient, voilà. Mais après, quand je suis dans l'action, donc c'est-à-dire quand je fais la vaisselle, par exemple, quand je prends ma douche, quand je suis au travail, je peux développer ma, enfin je peux mettre mon attention sur ce que je fais ici et maintenant. Mmh. C'est aussi ça, la méditer. Et donc, du coup, c'est une pratique complètement active. C'est pas évident, on est d'accord. Hein, mais voilà, mais en même temps, on est humain. Donc, du coup, c'est un chemin de vie. Mais c'est complètement être actif, en fait, dans la société. Là, en ce moment, toi et moi, on cause. Bah, personnellement, je suis entièrement concentré sur notre discussion. Je pense et que toi aussi. Donc, d'une certaine manière, on est en méditation là maintenant.
Oh, je médite, mais je ne savais même pas que j'étais capable de méditer.
Ça s'appelle de la pleine conscience. Ouais. Tu es pleinement conscient, voilà, c'est ça.
J'adore. Un autre cliché, tiens, méditer, c'est pas pour les enfants.
C'est pas pour les enfants. Bah pourquoi pas. Du coup, est-ce que du coup toi et moi on est des grands enfants? ça commence clair. Quand ça s'arrête quand? Bah si, dès qu'un enfant commence à prendre faim, même maintenant on peut très bien apprendre. Méditer, c'est pas quelque chose de sacré, enfin c'est pas que ça, voilà. Donc c'est clair, ben, que si un enfant de deux ans et demi qui à son âge nous imite, enfin imite ses parents, ou imite en tout cas les grands, ben on le regarde, l'enfant il nous regarde et on lui apprend juste à respirer profondément et par le bas du ventre, ben il va le faire, il va nous imiter et hop c'est bon. Il est déjà dedans, quoi. Il n'était pas conscience de ça, mais c'est vrai que tout commence par la respiration. Et ensuite, on peut aller de plus en plus loin. Dès que l'enfant il commence à comprendre les mots et les phrases, ainsi de suite, ben, si on peut méditer, on peut commencer ça en étant enfant. Et c'est même beaucoup mieux, je trouve.
Et tu l'as abordé, méditer ne prend pas et ne demande pas forcément 3 heures par jour pour se sentir bien.
Non, pas du tout, pas du tout. Ben, c'est ça aussi qu'on a voulu développer avec Octave, hein, alors ça ne demande pas de prendre 3 heures par jour. Il est prouvé pour les personnes qui aiment les sources scientifiques, ou en tout cas les travaux de la science, il est prouvé que méditer 10 minutes par jour, alors je ne me souviens plus exactement les chiffres, mais baisse je crois de 50% le niveau de stress, fait monter de 50% la sensation et de bien-être, et ainsi de suite. Donc 10 minutes par jour a déjà de grands effets. Et avec Octave, avec Laure et Rime, on a voulu aussi développer ça via l'appli, c'est proposer des méditations qui durent même 2 minutes et d'autres un quart d'heure. Donc vraiment, voilà, pour que ça soit adapté, adaptable et adapté à la vie de chacun et du temps qu'on a.
Eh ben voilà qu'on a aboli quelques clichés. Transition toute trouvée, tu parles d'Octave. Comment tu écris les textes justement pour l'application?
Alors c'est d'abord je pars, alors c'est une discussion qu'on a avec Laure et Rime sur tiens quel thème on va aborder dans les prochains programmes ou dans les prochaines méditations, donc on choisit un thème ensemble et ensuite d'abord je médite.
Autant commencer par là, c'est clair.
Ouais, clairement, voilà, c'est ça quoi. je mets de ma pièce, je ferme les yeux pour justement en fait me recentrer. Parce que voilà, j'ai besoin d'être centré pour que les mots que je vais dire et que je vais écrire et dire soient le plus possible. Et bon, après, je connais l'intro, enfin, je vois très vite le chemin à prendre dans une méditation, introduction, développement et conclusion, voilà, parce que il y a chaque fois un but dans chaque méditation, voilà. Donc, par exemple, développer sa paix intérieure, on va pas forcément parler des émotions de colère, peur, tristesse, par exemple. On va mettre l'accent sur la paix intérieure, ouais, tu vois. Donc du coup, il y a un but et donc un chemin à suivre. Donc ce chemin, je le définis assez vite. Et puis les mots que j'utilise, quand d'abord je me recentre et je respire et que je médite, ensuite j'écris le texte et il vient assez naturellement. Voilà, donc j'écris le texte et ensuite quand j'enregistre, je ne suis pas forcément le texte à la virgule près, mais bon, c'est une trame que je garde vraiment et pour respecter vraiment cette entrée, enfin cette introduction, développement et conclusion, et pour faire en fait un chemin, un voyage ensemble, parce qu'on fait un voyage sonore, on fait un voyage avec les mots, et pour que la personne en fait puisse repartir avec. L'idée c'est que la personne puisse voilà évoluer ou sentir ben, qu'il y a une entrée, une fin et qu'elle trouve ce que se trouvait dans la méditation.
On va faire un lien entre la méditation et quelque chose qui te tient à cœur. Laure, les bonnes résolutions qu'on prend en janvier. Alors, en préparant cette émission, ça m'arrive de bosser, hein, j'ai découvert que ça nous venait de l'Antiquité et à Babylone, quand même. Il y a environ 4000 ans, ce sont les Babyloniens qui prenaient des engagements pour leur nouvelle année, de fait, rembourser l'argent emprunté ou rendre du matériel prêté pour commencer une année du bon pied. Alors, aujourd'hui, plus rien à voir. Et toi, Laure, ça a tendance à t'agacer, ces bonnes résolutions?
Oui, absolument. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que les bonnes résolutions disent de nous? Cet agacement, il est venu quand, après avoir écouté peut-être la 43e personne en 24 heures le 2 janvier qui me disait, alors cette année, moi je vais faire ci, ou alors, ah là là, ça fait 20 ans en fait que tous les 2 janvier je me dis ci, et puis alors le 2 janvier à 17 heures, j'en bois l'apéro, par exemple. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, qu'est-ce que ça dit de nous? Et en fait, je me suis demandé pourquoi la majorité d'entre nous décide de prendre les bonnes résolutions toujours le 1er janvier, après la grosse chouille du 31 décembre, majoritairement. Et je me suis dit, pourquoi pas que ça serait peut-être pour se déculpabiliser d'éventuels excès, des fêtes ou de mauvaises habitudes qu'on avait prises l'année passée. Et surtout un symptôme d'une envie de s'alléger, de repartir sur de nouvelles bases, finalement, comme les Babyloniens qui faisaient ça sur des nouvelles bases donc financières. Mm-hmm. Mais là, c'est vraiment des nouvelles bases, souvent pour répondre à une sensation de lourdeur psychique, pardon, et physique. Et souvent, pour moi, vraiment générée par la fin de l'année, par le changement de saison, de l'automne, toute la fatigue accumulée, etc. Et en fait, donc, tu vois, tu m'apprends, Ben, que cette tradition vient des Babyloniens. Donc, en effet, c'est enraciné depuis combien ?
4000 ans.
Mais voilà, donc ça enracine encore plus l'idée, en fait, que nouvelle année rime avec nouveau départ. Et en fait, moi, je pense vraiment que les bonnes résolutions ne devraient pas être cantonnées au seul mois de janvier. En fait, on peut choisir chaque matin la manière dont on a envie de vivre sa journée. Comme on pourrait choisir chaque matin d'aller voir tous les gens qui nous doivent de l'argent en disant, maintenant, tu me rembourses, comme ça je débute ma journée sur de bonnes bases.
C'est vrai.
Enfin, c'est une manière comme une autre, en tout cas, de décider chaque jour la manière dont on a envie de vivre sa journée. Et en fait, je me suis fait une réflexion et je me disais, mais si en fait on acceptait entre soi et soi qu'il y a des temps de fête et des temps de diète, au lieu, et donc on peut trouver cet équilibre entre les deux, au lieu de se dire en fait tout le temps que, enfin de ressentir cette culpabilité d'avoir fait des excès, parce qu'en fait on est aussi entouré d'un monde avec énormément de consommation, et c'est souvent générateur d'excès en fait. On se dit, ah là, il y a ce plaisir facile qui est là, faut vite que j'en profite à 150-300%, quitte à me gaver jusqu'à ce que j'en puisse plus, au cas où il y en ait plus, donc ça vient répondre à un manque, etc. Et d'où, et après, derrière, donc ça peut générer de la culpabilité, alors qu'en fait, finalement, si on accepte de se dire, ok, le 31 décembre, par exemple, hein, c'est un cliché, mais 31 décembre, je fais la fête, je bois peut-être un peu plus de champagne que d'habitude, ou j'en bois alors que d'habitude je n'en bois pas, etc., bah ok, le 1er, le 2 ou tout le mois de janvier, je bois pas, etc., et c'est ok, c'est cool, plutôt que de se fustiger, de se flageller. Et en fait, pour faire le lien avec ce que disait Étienne, ou avec Octave, notre projet, c'est que bah, la méditation est un des outils pour y parvenir, pour apprendre à se connaître et à s'aimer, au lieu de se bousculer et de se flageller, et justement, donc, pouvoir profiter de tous les plaisirs de la vie. Et même pas avec modération, parce que je déteste ce slogan-là, mais de profiter comme on en a envie, sans crainte de manquer de plaisir le lendemain, ce qui permet de ne pas s'en rendre malade.
Mais ce phénomène, il est en plus amplifié par certains médias qui sont là un peu pour nous culpabiliser quand même.
Ah ben bien sûr, mais culpabiliser, ça fait consommer.
Au moins c'est clair. Comment justement, tu l'as abordé, mais Étienne, comment Octave peut aider à n'importe quel moment de l'année justement, est-ce que ça permet d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, est-ce que ça aide la méditation pour ça?
Ben, en fait, arrêter de boire, arrêter de fumer, il y a des méditations écrites pour ça. Oui, ce test existe. C'est pas trop notre but. L'idée, en fait, c'est comme disait Laure, c'est de trouver en fait une justesse intérieure pour justement en fait ne pas avoir peur du manque, ou ne pas avoir peur et du lendemain, ou ne pas avoir peur de la culpabilisation qu'il peut avoir ou quoi que ce soit. Et en fait, tout ça permet de vivre en conscience, et donc que quoi qu'on fasse, c'est juste pour nous. Et donc du coup, si j'ai envie, et alors il y a aussi une deuxième chose, mais si j'ai envie de boire et de fumer, eh bien je le sais, j'en suis conscient, et ça me rend heureux, et eh bien c'est très bien. Et on va même plutôt partir et se rassurer sur le principe que la méditation pure et dure ne permet pas de directement, en tout cas, arrêter de boire ou arrêter de fumer, mais permet d'être en phase avec son fait et surtout aussi d'être conscient aussi de sa responsabilité dans ce qu'on fait. Si ce soir je veux boire 3 bouteilles de champagne par exemple, je sais que demain je serai malade, bah, si ça me rend heureux et que je le veux, et bah, pourquoi pas, j'aime dire tu fais, tu vois.
Voilà. grosse gueule de bois, un peu de méditation et c'est reparti, hein.
Le principe, c'est vraiment en fait de ne pas se perdre dans sa culpabilité ou dans des émotions de je fais attention parce que sinon et ainsi de suite, et du coup la peur et tout ça, ainsi de suite. C'est de développer sa responsabilité dans quoi qu'on fasse, et c'est clairement en lien avec développer son attention dans ce qu'on fait ici et maintenant. Et à partir du moment où on est responsable et de soi, j'ai presque envie de dire une sorte de pas de lissage, mais en tout cas on devient modéré, mais vis-à-vis de soi-même, enfin, ce qu'on fait, c'est juste, voilà. Donc du coup, donc on est bien avec soi, voilà.
Parlons du 11 février, puisque vous serez tous les deux à la Ronceret de Saint-Laurent-de-Trèves pour un atelier méditation et musique. Tu seras à la voix, toi, Laure, tu seras à la musique. Concrètement, comment ça va se passer, Laure?
Alors, très concrètement, donc nous accueillons toutes celles et ceux qui sont curieux de découvrir ce qu'est la méditation ou qui connaissent déjà, à venir nous retrouver donc à la Ronceret à 18h le samedi 11 février. Le déroulé va être assez simple, ça va se passer en 3 parties. Il y aura une première partie d'explication, d'introduction à la méditation, à la musique également, pour que l'on raconte un peu aussi notre choix d'avoir voulu proposer un soutien musical sur la méditation qu'Étienne va proposer après. Le deuxième temps donc sera un instant de méditation, enfin un instant, une pratique méditative sur la thématique d'ouvrir son cœur. Étienne, je te laisserai après raconter le ce que veut dire exactement cette thématique. Et le troisième temps, ben, c'est un temps qu'on aime bien, c'est un temps d'échange autour d'une tisane.
et pas de trois bouteilles de champagne.
C'est chacun qui décide, chacun responsable.
Alors justement, ouvrir son cœur, ça veut dire quoi, Étienne?
Alors, c'est un thème justement que j'affectionne beaucoup. Quand on s'engage, quand on commence cette pratique, en fait, très 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 vite, on découvre on a en nous une paix, un calme, une sérénité, un amour bienveillant, une bienveillance. Voilà, tout ça c'est en nous. Et la méditation, elle permet du coup de prendre soin de nous, mais très vite de prendre soin des autres et soin de la vie en général. Et je trouve, enfin nous trouvons avec Laure et Rime, que le monde dans lequel on vit est plein de folie, grosse part absurde. Qui a une grande difficulté actuellement, et que ce dont on a besoin, c'est de bienveillance les uns vers les autres, c'est d'amour, c'est d'accueil, c'est d'acceptation, de respect, et voilà. Et alors du coup, il y a une méditation qui s'appelle la méditation de l'amour bienveillant, qui est très belle et qui en fait, c'est un chemin où au fur et à mesure de la méditation, on va chercher à ouvrir son cœur à soi, aux autres, à la vie en général, à la terre, aux animaux, aux éléments de la nature, et voilà. Et pour développer un regard de bienveillance et d'envie de rendre les choses belles, pour soi et pour tout le monde. Et donc ça passe par ouvrir son cœur. Ça c'est justement l'ouverture et du cœur. Et ça permet de nous connecter, de nous reconnecter, voilà, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres, à la vie. Voilà. Et de pouvoir goûter, au pouvoir, parce que c'est mon pouvoir, à la beauté de l'amour inconditionnel, humain, dont on a tous besoin. On aime être être aimé, et on aime aimer, voilà, donc c'est pas du tout un mot, enfin c'est un très beau mot, voilà, au pouvoir de l'amour inconditionnel, et alors du coup on abordera ça le 11 février, ben, mais comment est-ce qu'un cœur ouvert peut littéralement en fait transformer notre quotidien d'une façon inégalable, ça c'est clair, et donc voilà, on abordera tout ça ce 11 février.
Amour et
bien... programme.
Amour et bienveillance, ce sera au programme, et ce monde en a tellement besoin, contrairement aux dons, puisqu'il n'y en a pas besoin de dons pour méditer. Tu veux ajouter quelque chose, Laure?
Oui, juste pour le 11 février, mais peut-être que tu allais le dire, Ben, après, c'est que ça se fait idéalement sur réservation auprès de Nausicaa. Le numéro de téléphone de Nausicaa sera
Je peux trouver ça assez rapidement. Voilà. Et sinon, c'est joyaencore.com. Vous avez évidemment le numéro.
Tout à fait.
Je vous le donne à la fin de cette émission, le numéro de Nausicaa et son adresse mail, évidemment. C'est prix libre et conscient aussi. Donc voilà. Et voilà. Allez. Oui.
Pardon, puis je peux...
Bah avec plaisir, on est là pour ça, à la maison.
Tant qu'à faire. Non, puis je voulais simplement rajouter que c'est une grande première pour nous aussi, cet atelier. Donc, comme Étienne racontait tout à l'heure, lui, il a énormément donc, pratiqué en groupe. Il a également été un accompagnant de groupe. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de musique pour accompagner des pratiques méditatives. Je propose des voyages sonores également. C'est vraiment... des choses que j'aime faire, et en fait on a développé Octave, donc qui est une application de méditation et musique digitale, et en fait on a eu envie d'expérimenter la chose en présentiel avec et de partager en fait un instant de méditation avec d'autres humains tous ensemble, que ce soit donc avec Étienne qui guide et puis moi qui joue du violon, et dans tous les cas c'est la première fois qu'on va faire ça ensemble, frères et sœurs aussi.
Oui, c'est vrai, on l'a pas
voilà.
dit.
Et donc voilà, cette première a lieu donc chez notre chère Nausicaa à La Ronceret, et en fait on a hâte.
Le 11 février prochain, et c'est quand même bien fait, tu m'as permis de trouver le numéro de Nausicaa, 07 78 14 27 79, Joya encore, Joya ça s'écrit joyaencore.com, c'est le site internet de La Ronceret, ce lieu absolument fantastique. Allez découvrir, auditeurs et auditrices, cet atelier méditation et musique à partir de 18h. Merci beaucoup Étienne.
Merci à toi.
Tu es co-créateur avec Rim et Laure de l'application Octave Médite. À très vite dans nos Cévennes. Donc merci à toi Laure.
Avec plaisir, merci Ben.
Octave Médite, c'est sur toutes les plateformes connues, hein. Il n'y a pas de...
Ouais, enfin Google Play et...
App Store.
App Store, pardon.
Et App Store, c'est pas grave, c'est le matin, tout va très bien. Merci beaucoup à tous les deux, vive la méditation. Je mets évidemment tous les liens sur notre site. Dans un instant, venez comme vous êtes à La Ronceret, tiens, ça tombe bien. On écoute Nirvana, Come As You Are. À bientôt Étienne, au revoir.
À bientôt, merci, au revoir. As I know it in me.
Danser Véronèse, entendre un Kandinsky ou goûter un Delacroix, c'est ce que nous proposent les enfants de l'école de Vébron. L'expérience de nouvelles formes de médiation. Une approche de l'histoire de l'art qui ne se contenterait plus seulement du regard. Dans le musée imaginaire des enfants de Lozère, on explore les sens, un par un. On les déploie, on les déplie, on les relie les uns aux autres par des passages secrets, poétiques, invisibles. On fait partir les œuvres dans tous les sens, afin de les relier, une fois pour toutes, à l'imagination.
Alors notre compagnie c'est l'Apocalypse Joyeuse, c'est une compagnie de spectacle vivant qui a fait son premier spectacle il y a 2 ans. Et puis son deuxième spectacle, eh bien, on l'a joué à Vébron. Donc on a mis un premier pied en Lozère et on s'est dit quitte à en mettre un, on va mettre le deuxième. Donc là on fait un nouveau projet à l'école de Vébron. C'est un projet de création d'un musée, ça va s'appeler le musée imaginaire des enfants de Lozère. Ça fait miel. Et les enfants, les élèves de l'école de Vébron vont présenter ce projet devant les élèves des écoles de Florac et aussi devant qui veut venir.
Alors bonjour, je vais vous présenter l'œuvre de René Magritte. René Magritte, en fait, il voulait faire mentir les images. Et du coup, pour les faire mentir, eh ben, il a peint une rue qui est réelle. Il a peint un ciel qui est réel et une rue noire avec un ciel blanc, et ben c'est pas du tout réel. Je vais prendre la barbe à papa avec des pop-corn salés, et comme la barbe à papa c'est très sucré et très mou, et que le contraire de la barbe à papa c'est pop-corn dur avec du sel.
C'est pour imager le contraste qu'il y a dans l'image entre le blanc des nuages et le noir de la maison, c'est ça?
Oui.
Donc déjà, c'est un projet qui a eu lieu en 3 temps. Le premier temps, ça a été un temps de découverte déjà, où ils ne sont pas médiateurs, mais en fait juste ils découvrent les œuvres. Et il y avait 50 œuvres qu'ils ont pu découvrir. Et alors ces œuvres, elles ont été sélectionnées, choisies par nous, selon des critères assez variables. D'abord, moi je voulais vraiment qu'il y ait un peu toutes les époques. Ensuite, je voulais vraiment qu'il y ait autant d'artistes femmes que d'artistes hommes, et qu'ils découvrent à la fois des peintres connus, pour qu'ils puissent justement se les approprier, et qu'ils aillent aussi également vers des choses qui sont moins, qu'on pourrait penser moins accessibles pour les enfants, alors qu'en fait c'est faux, parce que tout est accessible pour les enfants, je pense. Donc voilà, et surtout des œuvres qui brassent des thématiques très différentes, les thématiques, je sais pas, par exemple du racisme avec Delacroix et le Maroc, des thématiques de l'impossibilité des peuples parfois à s'entendre avec Bruegel et la Tour de Babel, et voilà, les thématiques de la femme avec le corset d'Émilie Flogueux, des thèmes très différents, et surtout aussi des œuvres qui permettent de convoquer les sens, parce qu'en fait c'est ça qu'on a fait en première semaine, c'est qu'on n'a pas fait juste des médiations en leur expliquant les tableaux. On voulait vraiment qu'ils s'emparent des tableaux à travers leurs 5 sens. Donc voilà, par le goût, par l'odorat, le toucher, etc.
Gaspard.
Est-ce que tu peux me décrire le tableau?
D'abord, je décris le nom. Le serment des Horaces.
Comment?
Le serment des Horaces.
Okay. C'est qui l'a peint?
Louis David. Jacques-Louis David. En fait, ils étaient en train de faire un serment à leur père parce qu'il y avait une guerre entre les Alpes et Rome. Et comme champion, Rome, ils ont choisi les Horaces et Alpes, les Curias. Et à côté, il y avait les femmes qui pleuraient parce que s'ils perdaient leur frère ou leur mari. Et du coup, ils sont allés à la guerre. Il y avait 3 Horaces survivants et non. 3 Curias survivants, il restait que 1 Horace. Le seul Horace, il n'avait pas d'armes. Et du coup, il les a fait courir. Et du coup, il les a fait mourir d'essoufflement. Et du coup, c'est Rome qui a gagné.
Je m'appelle Lénaïque. Et mon œuvre, le titre de mon œuvre est La Tour de Babel. C'est un peintre, Bruegel, qui a représenté son village. Et l'histoire de cette tour, c'est que plein de personnes ont construit cette tour pour aller toucher le ciel, pour parler à Dieu, pour toucher Dieu, mais ils n'ont pas construit entière, elle est restée encore sur place, mais on a dû la casser pour prendre des pierres pour faire des maisons, parce que sinon on n'aurait pas assez de maisons. Et c'est grâce à cette tour qu'on a autant de maisons. Dieu, il a brouillé les langues. Il a mis du français, de l'anglais. Il y a des langues différentes maintenant. Et il voulait pas que ça va jusqu'au ciel. Oui, il a dispersé personne sur toute la surface de la Terre. Voilà. Et pour l'ouïe, c'est les oreilles, on écoute. Je vais faire les bruits des bateaux, des vaguelettes, des personnes qui sont en train de tailler les pierres. Voilà.
La mémoire fonctionne énormément sur les sens. Les sens, c'est vraiment la porte d'entrée du monde, quoi, du monde vers le corps. Et on a essayé de trouver le goût des tableaux, donc quel goût pouvaient avoir les tableaux, et combien c'est le rapport au goût aussi est éminemment subjectif. Et en fait, ça va aussi avec le rapport aux œuvres, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a trouvé que l'œuvre était amère et était triste, et donc il a choisi un goût amer et triste. Alors là où en fait un autre enfant devant la même œuvre va avoir une lecture complètement différente, et c'est aussi ça qu'on a travaillé, c'est la subjectivité.
Noah, Enzo.
C'est qui l'a peint?
Une fille. C'est Artemisia Gentileschi. C'est Judith et sa servante qui ont coupé la tête d'Holoferne parce que Holoferne voulait tuer les Juifs. Du coup, elle, quand les soldats ils ont entouré le village, et ben, ils ne pouvaient plus sortir, ils n'avaient plus d'eau et tout. Et Judith, c'est une reine. Et du coup, elle s'est fait belle, elle est partie avec Holoferne dans la tente. Et après, ils ont mangé ensemble et tout. Et après, il avait tellement trop mangé qu'il s'est endormi. Et après, du coup, elle a tranché la tête de toutes ses forces d'Holoferne.
Et pourquoi vous avez choisi celle-là?
Parce qu'on l'aime bien. Moi, j'aime bien aussi les épées, les morts. J'aime bien ça.
Comment tu t'appelles?
Laura.
Tu as choisi de travailler sur quelle œuvre?
Marie-Antoinette. Elisabeth Vigier-Lebrun qui a peint cette œuvre et elle a décidé de l'appeler Marie-Antoinette. Elle lui a fait son portrait en fait. Moi, j'ai pris l'odorat, le goût, le toucher et la parole. J'en ai pris plein. Et du coup, par exemple, par rapport à la robe, l'immense robe, j'ai pris de la soie. Par rapport à l'odeur, j'ai pris le parfum de la rose parce qu'il y a des roses, des fleurs et tout. Et pour le goût, j'ai pris des meringues parce que c'est bien. Quand la reine, elle en mangeait un petit peu, de temps en temps.
L'apocalypse joyeuse, cette structure qu'on a créée avec Maëva, tous les deux, c'est quelque chose qui est à cheval entre nos deux domaines de compétences. Moi, je suis comédien, auteur, metteur en scène, donc vraiment tourné du côté du théâtre et du spectacle pur. Et Maëva, elle a une formation d'historienne d'art et de médiation culturelle. Donc du coup, l'apocalypse joyeuse va créer des spectacles qui introduisent de l'image, soit en projection, soit en reproduction, ou des projets purement d'histoire de l'art dans lesquels il y a quand même un peu de théâtre, un peu de danse. Donc là, avec les enfants, on a travaillé, tu l'as vu tout à l'heure, sur des ateliers de théâtre, des pratiques de théâtre, mais aussi on a fait des exercices de danse pure, sur le mouvement. Par exemple, on est rentré dans certaines œuvres par le corps, en reproduisant les gestes des personnages, en essayant d'imaginer ce qui avait pu se passer juste avant le moment du tableau, ou juste après. On utilise clairement le théâtre et la danse pour pouvoir développer un peu l'imaginaire qu'il y a autour du tableau.
Yuna, Nuit étoilée à Saint-Rémy de Provence.
Qui c'est qui l'a peint?
Van Gogh. Van Gogh, il avait une maladie, les gens ils disaient qu'il était fou, et du coup il s'est tué.
Tu penses qu'il n'était pas heureux quand il a peint cette œuvre?
Non, c'était un moment sombre de sa vie. Alors c'est un ciel avec des étoiles. En bas, il y a une ville, il y a une église. Et au premier plan, il y a un grand sapin. Vers le troisième plan, il y a des montagnes. Et il est fait qu'en petits traits.
Tu as choisi d'en parler comment, toi, aux visiteurs de l'exposition?
En leur faisant toucher des choses, des petites lignes comme sur la peinture. Et écouter la nuit et la nature.
Les bruits de la nuit? C'est quoi les bruits de la nuit?
Dans la nuit, il y a par exemple la chouette, on entend des animaux chassés, des bruissements de feuilles, et il y a du silence.
Comment tu t'appelles ?
Isaac.
Tu as choisi de travailler sur quelle œuvre ?
Pompier courant un incendie.
C'est qui Lapin ?
Gustave Courbet.
Alors, comment t'as décidé de présenter ton œuvre à l'exposition ?
Le goût, le toucher, l'ouïe.
Tu vas faire goûter quoi ?
Du poivre, de la carotte et de l'endive, pour l'amertume, sur le tableau. Et après, pour leur faire rendre compte qu'elle est immense, qu'elle fait 4 mètres par 6 mètres, de la ficelle 2 fois 6 mètres, et une fois 4 mètres. 2 fois 4 mètres.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ?
Des pompiers. Il y a une pompe à incendie. Bon, pas comme celle d'aujourd'hui, avec une roue en bois et de l'eau à l'intérieur. Ben, ils font un faux incendie que Gustave Courbet a essayé, qui a demandé à ce qu'on fasse le faux. Il a demandé à ce qu'ils sortent, tous les hommes. Et ça se voit bien parce qu'il y a un homme pas content. Oui, il a demandé à des vrais pompiers de sortir tout alors qu'il n'y a même pas le feu pour qu'ils puissent le peindre.
Juste un truc, un dernier truc. Pourquoi t'as choisi la carotte pour faire goûter aux visiteurs ?
Ben, c'est normal, il y aura de la carotte, de l'endive et du poivre pour faire l'amertume, en fait.
Oui, mais ça, c'est l'endive qui fait l'amertume.
Ouais, mais après, il y a aussi ça, parce que quand même, aussi, c'est piquant.
Le poivre, c'est piquant, et la carotte ?
Ben, la carotte, c'est pour un peu accompagner, parce que du poivre et de l'endive, ça va avoir mauvais goût, donc il faut un peu de carotte.
Tu t'appelles comment ?
Lydia. Mon œuvre s'appelle Mon village. C'est Marc Chagall qui l'a fait. Marc Chagall est parti à Paris. Il a fait un rêve et son village lui manquait. Et du coup, ben, le rêve qu'il a fait, il l'a dessiné. Et aussi, ben, Marc Chagall, ben, quand il est rentré chez lui, ben, il s'est marié. Après, là, il y a une croix. Une étoile parce qu'il y avait deux villages qui faisaient la paix au lieu de faire la guerre. Puis là aussi, il y a une croix. Et puis, Marc Chagall, il était juif et il croyait en Dieu.
Qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants de faire ça, de s'approprier une œuvre ?
Alors déjà, ça leur apporte énormément en confiance en eux, déjà. Parce qu'en fait, quand on met quelqu'un dans la position de celui qui sait, et aussi de celui qui doit transmettre, il est à la fois obligé d'être, de se sentir légitime, d'être là où il est, et voilà, de faire plein de recherches, d'être heureux d'être là où il est, et il doit aussi se mettre à la place de l'autre qui ne sait pas toujours, de l'autre qui a peut-être un point de vue différent. Et rien que ça, c'est déjà énorme pour un enfant de pouvoir se mettre à la place du visiteur et être au service de la rencontre entre le visiteur et l'œuvre. Donc un peu s'oublier là-dedans et être au service d'une rencontre.
Tout simplement aussi, c'est drôle comme ils voyagent dans les œuvres et ils n'en finissent pas de se montrer des détails. En fait, ils sont chacun responsables, chacune d'une œuvre. Donc il y a 12 œuvres, sauf deux qui sont en binôme. Mais en fait, ils sont très intéressés par les œuvres des autres. Et quand là, on s'entraîne à faire des médiations, bah, ils se les font à eux-mêmes. Ceux qui jouent les visiteurs, en fait, n'arrêtent pas de donner des nouvelles infos, n'arrêtent pas de voir des nouveaux détails. Ils se demandent si là, le nuage sur la tour de Bruegel, c'est Dieu ou c'est pas Dieu, ou si c'est peut-être juste un nuage d'orage. La première fois qu'ils sont rentrés, ils avaient tout vu, chaque tableau, en moins d'une demi-seconde. Et ils accordaient à chaque image une demi-seconde. Et maintenant, ils sont en train de réaliser qu'en passant une semaine devant la même œuvre, on voit des nouvelles choses, des nouveaux détails. Selon comment on est luné, si on est levé du mauvais pied, on voit de la colère dans le tableau. Et le lendemain, on se dit qu'en fait, c'est beau. Oui. Ça, c'est assez drôle de juste de voir en fait comment déjà en parlant, en s'asseyant tous ensemble devant une œuvre et en parlant, en s'écoutant, à la condition qu'on s'écoute, eh bien, on voit des choses apparaître.
Le fait de côtoyer ces œuvres dont on nous répète en permanence que c'est des chefs-d'œuvre, que ça, de toute façon ça nous dépasse, que c'est dans les grands musées, dans les grandes villes, etc. Ouais. Le fait qu'il les côtoie pendant 2 semaines, 3 semaines ces œuvres à l'école, ici à Vébron, même ailleurs, hein, dans d'autres écoles, c'est aussi faire redescendre tout ça, quoi. Désacraliser le rapport aux œuvres d'art et se dire qu'en fait c'est juste des fenêtres sur le monde et que eux, ont leur place là-dedans, en fait. Vraiment, c'est pas réservé aux spécialistes et aux grands potes.
Et c'est drôle de voir les manières dans lesquelles ils sont, avec lesquelles ils sont rentrés dans les œuvres. On n'a pas eu les choix auxquels on s'attendait, forcément. Une enfant très calme a choisi une œuvre très tourmentée, avec beaucoup de mouvements. D'autres ont choisi un tableau parce qu'en fait, un personnage lui fait penser à sa mère. Et il y a toujours des choix étonnants. Tous, en fait, c'est des choix assez étonnants. Ouais. Deux garçons qui ont choisi de travailler sur un portrait qui présente deux femmes, peint par une femme. C'est assez étonnant de voir ce qui en sort. Et chez d'autres, c'est représentatif. Ça raconte quelque chose de ces enfants, quoi. Donc, je pense que c'est ça qu'on verra dans le musée, j'espère. On entendra les enfants nous parler de l'œuvre, on regardera un peu l'œuvre. Mais je pense que très vite, c'est surtout une façon de faire des portraits d'enfants. Je pense que très vite, on se dira, tiens, il est marrant celui-ci. Quand il nous dit ça, on sent qu'il parle de lui. Et je pense qu'on les verra beaucoup, en fait. Même s'ils feront plein d'efforts pour s'effacer derrière l'œuvre, parce que c'est ça qu'on leur demande, mais en fait, je pense qu'on les verra.
Comment vous vous appelez ?
Romane, Léonie.
Vous avez choisi de travailler sur quelle œuvre ?
Le cirque. C'est Georges Seurat. Il l'a peint en 1886.
Pourquoi vous avez choisi cette œuvre, toi Léonie? Pourquoi tu as aimé cette œuvre?
Parce que ça fait longtemps que je la connais et que c'est impressionnant de peindre comme ça.
Parce que c'est peint comment?
Avec plein de petits points, ça s'appelle la méthode du pointillisme. C'est Georges Seurat qui l'a inventé.
Est-ce que tu peux me décrire, Romane, s'il te plaît, le tableau?
On voit un cheval avec une danseuse et les lignes... Diagonale, ça veut dire la dynamisme et la gaieté. Donc, par exemple, la dame, elle est penchée, elle est en train de tomber. Donc, elle est gaie, joyeuse et dynamisme. Et les lignes horizontales, ça veut dire le calme et les gradins sont calmes. Au début, on va dire bonjour à tout le monde. On va donner quelques informations. Et après, on leur posera des questions et ils vont nous répondre. Ensuite, c'est eux qui vont nous poser des questions. Ensuite, on partira, on dira au revoir. Et ce tableau, pour préciser, il est au musée d'Orsay. Et si vous voulez le voir un jour, vous pouvez y aller. Et si les spectateurs, ils disent quelque chose, mais c'est pas trop ça, on dit... Pour pas les vexer, on dit « oui, c'est parfaitement ça et, ». Et après, on dit « et si c'est pas du tout ça, on dit « c'est très intéressant, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça ». Et on dit « voilà ».
Et voilà pour ce reportage. Sur le miel, petite info quand même, si vous ne le savez pas, sachez que le festival de jeux Floracopolis, c'est ce week-end et c'est partout dans Florac, si vous aimez jouer, allez-y à Floracopolis. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve lundi, on parlera de lutte syndicale en amont de la manif du mardi 31, en espérant qu'il y ait autant de monde qu'à la dernière manif où il y avait entre 2000 et 2500 personnes sur Mende, absolument incroyable. Voilà, merci à toutes et tous de nous suivre à la programmation musicale, c'était Jacob, merci beaucoup à lui. On se quitte avec les Red Hot Chili Peppers, le morceau c'est Californication. Restez bien sur Martas, on n'y est pas trop mal. À lundi et ciao.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey yo,
And now